Bonjour et bienvenue à Échangeur Turcotte, une émission où on discute d'enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le monde agricole. Moi, j'habite dans un rang où il y a plein d'agriculteurs, j'ai plein de questions à poser. Et pour répondre à mes questions, j'ai le conseiller en développement agricole de la MRC Maria Chapdelaine, François Potvin. Bonjour François.
Bonjour, bonjour, merci de l'invitation.
Oui, ça va bien?
On a un point en commun, j'habite aussi dans un rang.
Oui, bon, ben, tu vois déjà, moi j'ai toujours habité dans un rang à peu près, sauf quand je t'ai fait mes études, là, okay. Tu es allé à l'extérieur. François, le monde agricole, ici on est plein de municipalités qui sont dans la ruralité, où il y a énormément d'agriculteurs, même d'Olbeau-Missassini, qu'on pense au secteur Sainte-Marguerite-Marie, etc. Bon, il y a des agriculteurs un peu partout. Est-ce que le monde agricole dans la MRC Maria-Chapdelaine, est-ce que, selon toi, il se porte bien en ce moment? Parce qu'ils ont des défis majeurs, là, on s'entend, là, mais en général, là, est-ce que c'est quand même, on dirait que c'est positif?
Oui, oui, c'est quand même positif. C'est sûr que tu l'as bien dit, puis il y a des défis qui sont l'agriculture, là, on parle d'échanges internationaux, on parle sur une base mondiale, tu le sais.
Ben oui, que ce soit des traités de libre-échange qui vont toucher les agriculteurs.
Les grains sont rendus cotés à la bourse et ainsi de suite. Fait que, tu sais, il y a des défis, ça c'est sûr et certain. Mais je dirais que oui, dans la MRC de Maria Chapdelaine, on a une certaine proximité qui facilite quand même là, la vie dans le monde agricole, ça je suis convaincu.
C'est quel type d'agriculture qu'on a? Moi, quand j'étais petit, ben, on parlait des patates, des fermes laitières. Puis ça s'est diversifié depuis ce temps-là. Je pense qu'on
Il y a eu une certaine diversification, mais c'est sûr que je te surprendrai pas en disant qu'on est leader dans la production de bleuets sauvages.
Ah oui! Oui, je n'y avais même pas pensé, mais tu as tellement raison.
Oui, c'est dans la MRC, dans la province, là, c'est ici qu'on retrouve là, le plus d'entreprises de production de bleuets sauvages, c'est sûr. Production laitière aussi, on a quand même un bon ratio d'entreprises laitières, pommes de terre évidemment.
Ouais.
Puis un petit nouveau là, qu'on voit depuis quand même quelques années qui commence à prendre de plus en plus de place, c'est la canneberge.
Canneberge.
On a des grosses productions de canneberge, puis c'est pas, ça se prête pas à tous les endroits, à tous les climats, à tous les types de sols. C'est quand même assez, assez pointu, mais on commence à avoir de plus en plus là, de belles productions de canneberge.
Moi, j'ai été un jeune étudiant qui a été planté dans la première cannebergière. Dans cette Marguerite.
OK.
Ouais, une autre époque. J'étais jeune et fou. C'est quoi les défis principaux des agriculteurs? J'imagine que les défis ne sont pas les mêmes pour un producteur de bleuets que pour un producteur de patates ou de lait. Je ne sais pas. Ou je me trompe. Là. Moi, je pars, là, je suis naïf là-dedans. Là.
Tu sais, il y a des défis qui vont se regrouper, c'est sûr. Si on parle tout de suite, on parle de la main-d'œuvre.
Oui.
C'est pratiquement les mêmes problèmes. On en est rendu, là, la solution passe bien sûr par la main-d'œuvre étrangère.
Oui.
Ça a été une certaine bouée de sauvetage pour beaucoup d'entreprises, c'est sûr et certain. Puis relié à ça, un enjeu principal qui touche à toutes les entreprises, c'est la fameuse relève.
Ouais.
On en parle énormément. Oui, on en parle énormément. Tu sais, historiquement, le plus vieux des garçons, il reprenait la ferme, c'était écrit dans le ciel. T'étais né le premier, t'avais pas le choix, tu reprenais la ferme. Peut-être des fois le deuxième, si le premier était assez fou pour s'en aller dans une carrière autre. Mais tu sais, c'était ça. Aujourd'hui, les familles sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins de familles de relève apparentée. Puis, on n'est plus dans les années 50. Là. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent s'émanciper aussi. C'est pas nécessairement les agriculteurs en devenir. Fait que là, il y a la nouvelle facette qui amène la relève non apparentée. Ou ce que...
Ça peut être n'importe qui.
Exact. Puis, tu sais, les entreprises agricoles, pas au détriment des autres entreprises, mais tu sais, c'est souvent plus lié à une vocation. C'est du 7 jours sur 7. C'est souvent, ils ont repris ça de leurs parents. Ils ont mis leur cœur, leur trip, puis pas mal toute leur énergie là-dedans. Fait que du jour au lendemain, mettre une pancarte à vendre, puis dire, bon, mais je vends, puis demain matin, moi, je m'en vais, je n'ai plus l'affaire là. Je connais pas beaucoup d'agriculteurs qui sont prêts à ça. Là, ouais. Ils veulent assurer la relève de leur entreprise. Ils veulent assurer qu'à survivre, qu'à perdure. Fait que c'est là les défis de lien avec la relève non apparentée.
Oui, puis il y en a beaucoup de fermes. Mais c'est quoi l'âge moyen des agriculteurs dans la MRC?
C'est dur à dire. On l'a du point de vue producteur de bleuets, là, on parle de près de 70 ans, là, producteur de bleuets. Ouais, fait que il y a un sérieux défi là. Puis comment je dirais... Puis tu sais, ça me fait rire parce qu'au début, quand on a parlé de bleuetière, on y pense pas instinctivement, mais ils sont là. C'est des productions agricoles, mais... On n'y pense pas tout le temps. Fait que, tantôt, eux aussi, ils vont avoir besoin de relève.
Ouais.
Puis, au même titre que les entreprises, les années 50, 60, nos grands-parents, là, on a pas mal le même âge. Souvent, nos grands-parents étaient dans l'agriculture ou pas loin. T'sais, dans notre arbre généalogique, les agriculteurs sont assez proches. Là. C'était des entreprises de quoi? 25, 30 vaches, gros max. petite entreprise, c'était facile de céder. Les terres ne valaient pas des fortunes. Mais là, aujourd'hui, on parle d'entreprises qui valent des millions. C'est pas évident. Puis les bleuetières ont fait la même chose. Quand, quand on a commencé les premières bleuetières, c'était artisanal, c'était pour arrondir les fins de mois. Mais avec le temps, c'est devenu des entreprises. Il y a des gens qui travaillent sur des bleuetières, c'est leur gagne-pain annuel. Là. Fait que là, on parle de bleuetières qui ont une certaine valeur aussi. Fait que demain matin, qui peut acheter ça? Qui va investir là-dedans? C'est tous les défis. Puis après ça, la personne qui a investi une partie de sa vie là-dedans, elle dira pas, ah, ben, pas de problème, je vais le donner au suivant. Tu sais, elle veut, souvent, les entreprises agricoles, ça va être leur fonds de pension qui va être le fonds de terre ou l'entreprise. Fait que les défis sont là, de réussir à financer ça. Là.
Je vais partir de mythes ou des choses qu'on entend là, pour voir aussi c'est quoi le constat là, peut-être plus véridique. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, les agriculteurs sont tous millionnaires. Là, bon, ils ont beaucoup d'équipements qui valent cher, mais moi, ce que je comprends, c'est que ils ont plus beaucoup de dettes que beaucoup d'argent. Beaucoup d'investissements, je ne veux pas dire dettes.
Exact, c'est ça. Ils ont beaucoup. Oui, ils ont des avoirs, ils ont des terres, ils ont des tracteurs, ils ont des. C'est quand même des gros équipements, mais on fait toujours en farce. Puis, tu sais, ma conjointe est aussi agricultrice, puis son père était agriculteur, puis c'est la blague qu'on ressort encore. Son père a toujours dit « Ah, moi, toute ma vie, j'ai gagné un salaire moyen d'à peu près 25 à 30 cents de l'heure. »
Ouais.
Tu sais, c'est une blague, sauf qu'à quelque part, il y avait quand même un certain fond. On s'entend que un agriculteur, il n'ira pas se chercher un salaire. Là. Oui, il va avoir un salaire pour bien vivre. Certains vivent bien, certains moins comme n'importe quel entrepreneur. Mais c'est clair que les avoirs, c'est lors de la vente à la fin de la...
Oui, c'est ça. C'est plus pour la retraite.
Oui, c'est ça. Fait, puis de là, le défi d'aller
puis
chercher...
En plus, avec les normes, j'imagine qu'il faut toujours renouveler le parc d'équipement. Là. Je veux dire, est-ce que, ben, je sais pas.
Oui, ben tu sais, puis c'est pour un point de vue de normes, c'est sûr que on a quand même passé, quelques années, là, il y a eu tout l'avènement des nouvelles normes environnementales qui a amené beaucoup de changements dans les entreprises agricoles, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ce qui amène les investissements, c'est la main-d'œuvre.
Okay.
On passe à l'ère d'avoir des robots de traite, des robots pour nettoyer, des robots. C'est souvent ce qui vont pallier au manque de main-d'œuvre dans le domaine. Là, on commence à parler d'investissement, puis on commence à parler de...
Ben oui.
Puis dans le secteur normandin, on est un des endroits qui où il y a par concentration, où il y a le plus de robots de traite. Là.
OK.
C'est assez. Puis tu sais, on n'entend pas souvent parler. C'est souvent ce qu'on reproche. Souvent, on le dit un peu, mais c'est vrai. On publicise pas là, nécessairement les bons coups non plus de l'agriculture. C'est triste un peu, mais quand on en parle aux médias.
C'est souvent les négatifs.
Sécheresse.
Inondation.
C'est souvent des situations comme ça. Mais quand il y a des. On est capable de nommer la dernière ferme qui vient d'investir 1 million dans des robots de traite? Non. Un garage va faire un investissement de 500 000 dans une nouvelle machine, ça va faire la première page du journal, puis on va en parler avec fierté, puis c'est correct. C'est qu'on veut. Mais il y aurait une certaine fierté puis une certaine démonstration à faire aussi des côtés positifs du monde agricole. Là.
Est-ce qu'il y a des préjugés envers le monde agricole? Tu sais, dans le sens où, moi, je trouve que ce métier-là, il est très important. C'est la base de notre chaîne alimentaire. Il devrait être en haut de la pyramide avec les docteurs, puis avec, tu sais, les ambulanciers, je sais pas. Mais je trouve que c'est un métier important, mais j'ai l'impression que dans la société, on le regarde un peu de haut, ce métier-là. Est-ce que je me trompe-tu?
Non, du tout. Puis ce que j'aime dire souvent, c'est que l'agriculture, on la prend pour acquise.
Oui.
C'est ça qui est le problème. C'est pas... Préjugé, je pense que la situation est plus ce qu'elle était quand on était... En tout cas, encore une fois, on parle pour des jeunes quarantenaires, là, mais... un fils d'agriculteur, s'il est arrivé un petit peu tard à l'école puis il n'avait pas eu le temps de changer ses bottes ou quelque chose, on s'en moquait de lui, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Fait que, tu sais, je pense que là, on n'est plus là. Ça l'a changé énormément, mais tu sais, comme je dis puis je le répète, on la prend vraiment pour acquise. Fait qu'on la met comme toujours de côté. On dirait
que c'était pas là et qu'elle allait toujours être là. Un peu comme quand t'es ado et tu sais que ta mère elle va être là.
Tu connais-tu un professeur d'éducation de choix de carrière au secondaire qui a proposé d'être agriculteur à quelqu'un?
Non.
Jamais.
Mais moi, on m'a quand même proposé d'être clown. Là. Je vais t'en mettre, là. Non, mais tu sais, il faut remplir plein d'affaires, puis là, ça sort, puis là, je vois, OK, moi, je deviens clown dans la vie. Bon, j'étais en secondaire 2, ça veut dire qu'on était en 86.
Ça n'a pas été ton choix?
Non. Ouais, peut-être un peu.
Fait que, tu sais, des préjugés, mais je voyais, là, le dernier sondage, je pense que c'est le Journal de Montréal là, qui fait des sondages, qui fait des palmarès dans l'emploi, là. Puis, étrangement, le métier d'agriculteur a monté quand même dans la pyramide. encore une fois, notre fameux laboratoire vivant qu'on a connu dans les deux dernières années de pandémie,
oui.
On a compris certaines choses par rapport à la nécessité de l'agriculture. Là. Quand on a commencé à parler de pandémie, de, pas de pandémie, mais de pénurie,
oui.
Puis quand on a commencé à avoir des... Moi, là, je me rappellerai toujours, on y croit pas, puis tu sais, on m'en croit jamais de rien, nous autres. Mais quand tu rentres à l'épicerie, puis tu vois des tablettes vides,
mm-hmm.
Là, on n'est pas en guerre. Oui, OK, il y a une pandémie, c'est quand même sérieux, mais à quelque part, la chaîne n'est pas si brisée que ça.
Je comprends que la mondialisation, ça fait qu'on est rendu spécialiste dans tel ou tel
oui.
produit, puis que là, on va manquer finalement de toutes les autres. Là.
Fait que, tu sais, j'imagine en Ukraine, là, d'après moi, les épiceries ne doivent pas être pleines.
Je peux te garantir qu'ils sont pas pleines.
Fait que, tu sais, les gens ont comme repris contact, repris conscience de l'importance de l'agriculture qu'on avait, comme je te disais tantôt, là, tu sais, du fait qu'on l'avait comme acquise, que c'était normal, puis qu'on va toujours avoir de quoi manger. Mais de l'éloigner, je prends juste l'exemple, mettons, de l'abattage. Oui, on aime bien ça, manger de la viande, puis les barbecues n'ont jamais été aussi populaires, mais il n'y a plus d'abattoir sous inspection permanente dans la région. Là.
Oui, puis même, ça va plus loin, là. Tu sais, même les produits, on dirait qu'on... Tu sais, à l'épicerie, là, t'en vois plus d'os, tu vois plus de sang, tu vois plus... Tu sais, on dirait qu'on veut nous éloigner de la réalité que c'est des animaux qui sont morts, là.
Oui, oui. Tu sais, c'est sûr que c'est un choix, puis tu sais, mais il y en a encore quand même qui le font, mais on s'en éloigne énormément.
Mais ça, il y a un projet d'abattoir mobile dans la région où il y en a
eu un? On étudie, oui, on étudie la chose. Là. Je dirais que tout ce qui est de la filière viande, on l'appelle la filière viande parce qu'elle a été vraiment là, abandonnée là, depuis plusieurs
ici,
années.
Ici, dans la région ou partout au Québec?
Surtout dans la région. Là, présentement, là, ceux qui font... Puis, on voit des initiatives de producteurs là, qui mettent en vente leur propre viande. Là. Cette année, on a vu ça un peu partout là, dans notre territoire. Mais présentement, ils font abattre à l'extérieur de la région. Il faut qu'ils ramènent leur...
Fait que c'est une empreinte écologique aussi.
Oui, puis tu sais, c'est tantôt là, avec le prix du carburant. Après ça...
Faut pas se surprendre que la viande coûte aussi cher.
Bien, c'est exactement. On est loin, puis... J'aime souvent faire la comparaison, c'est une chaîne. Mm-hmm. Dans l'alimentation, c'est souvent toutes des chaînes, puis chaque maillon est aussi important. Là, on a une chaîne, mais on a un maillon là, qui va faire qui va virer là, jusqu'à l'autre bout de la région. Là. Fait que plus ta chaîne est longue, plus elle est fragile.
Mm-hmm.
Fait que si le maillon là-bas, il brise, bien, il cède, puis tout là-bas, c'est bon, bien, nous autres, on ne dessert plus les clients du lac Saint-Jean. La chaîne est brisée, qu'est-ce qu'on fait? On est mal pris. Là. Fait que mm-hmm. Oui, on a fait un bon détour par rapport à ta session, mais oui. Je pense que la pandémie a permis de reconnecter un peu avec l'agriculture. Est-ce que ça va durer? La question se pose. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. La base, tu sais, on l'entend souvent, pas de pays sans paysans. On entend souvent que la base de tous les peuples, ça a toujours été l'agriculture.
Ben oui.
Tu sais, toutes les villes, on regarde, la plupart des villes sont installées où? Sont installées en fonction de l'agriculture, puis des ressources, puis ainsi de suite. Puis là, ben, on a comme...
Pourtant, j'ai l'impression que des fois, on a manqué de respect. T'sais, on regarde tout l'étalement urbain autour de Montréal qui a pris manger les plus belles terres agricoles qu'on avait. On ne pourra pas retourner en arrière là, à ce niveau-là. Là. Ici, on est chanceux, on a des belles terres agricoles, mais c'est pas le cas partout. Là.
Non, non. Puis ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Quand tu vois, si on parle, là, pour ne pas la nommer, la fameuse Commission de protection du territoire oui. agricole qui a peinturé la province... début des années 80, dans les fameux décrets de... C'était super. Hein? Dans les débuts des années 80, on était là. Puis oui, il fallait protéger parce que, comme tu l'as dit, si on ne l'avait pas bien protégé... moi, quand je vois tout le temps à Boucherville, là, puis que tu vois le fameux Power Center,
ouais.
à toutes les fois, je vois pas là souvent, que je vois l'ampleur à toutes les fois, je me dis, mais voyons, ça grossit encore. Mais voyons, ça l'a encore grossi. Puis c'est des terres agricoles, comme mm-hmm. tu dis, puis c'est des bonnes terres agricoles qui valent. Puis ici... On est dans le nord de Saint-Stanislas, dans une terre avec des arbres, ça de gros. Le propriétaire voudrait se faire un chalet sur son petit lot à bois. La CPTAQ va lui dire non. Comment ils font, eux autres, là-bas? C'est sûr que ça n'a pas le même impact, là.
Mm-hmm.
Financièrement parlant. Tu as-tu pensé du...
Ben oui. Non, tu sais, je veux dire, ça fait pas sens, là.
Fait que, oui, l'importance était là. Oui, l'importance de la protection des terres agricoles, c'est sûr qu'elle est là. Mais des fois, on se questionne, en effet, là.
On va venir, j'ai plein de sous-sujets. Alors, on va venir sur la pénurie de main-d'œuvre.
Oui.
Ça, c'est un problème qui est criant. On a parlé de robotisation, c'est une solution. L'autre solution qu'on voit, c'est faire venir des travailleurs étrangers
oui.
temporaires. Ça ne serait pas intéressant pour les communautés que représente Marie-Chapdelaine que ces travailleurs temporaires-là, on ne puisse pas, je ne sais pas moi, que ça devienne des travailleurs permanents qui puissent travailler autant en agriculture que... Je sais pas, moi, tu sais, j'ai l'impression que des fois, on se dit, bon, mais c'est correct, on va venir des étrangers. J'espère qu'ils vont bien s'intégrer, mais on les met. Tu sais, je sais pas si, ben, si on leur donnait un réel milieu de vie, peut-être que ça pourrait nous donner des futurs agriculteurs, des futurs repreneurs de ferme. Des, je sais pas, là, je rêve. Oui.
Puis j'appelle ça une victoire de 4 points, tu sais, faire la comparaison au sport. D'un côté, on travaille en attractivité du territoire où ce que nous. On est dans des milieux dévitalisés où ce que les populations augmentent pas. Puis d'un autre côté, on a des gens qui veulent venir. Il me semble que l'équation se ferait facilement, puis le lien se ferait facilement, en effet. Puis, tu sais, installons-les, comme tu dis. Le meilleur sentiment d'appartenance, puis la meilleure intégration...
C'est faire partie d'une communauté, avoir l'impression que
d'être de passage.
D'être de passage. Puis là, je sais pas si ça se passe comment ici, mais j'ai vu, tu sais, en Ontario, entre autres, là, des affaires un peu dégueulasses qui sont passées aussi avec les travailleurs temporaires. C'est pas ça qu'on veut, là, tu sais. Puis on veut que ces gens-là, justement, ils soient heureux. On veut être fiers de notre territoire, d'où on vient. On est les premiers à dire « Hey, venez voir chez nous comment c'est beau. » Bien, quand on accueille des gens, on peut-tu les intégrer de manière... Tu sais, l'intégration, ça se fait dans les deux sens, là.
Clairement. Puis, tu sais, une chose est certaine, là, qui est commune chez les producteurs agricoles, c'est leur chaleur humaine, leur bonté.
Ben oui.
Tu sais, c'est du monde qui sont proches de la nature. C'est du monde qui sont, tu sais, qui ont le cœur sur la main. Fait que d'accueillir des travailleurs étrangers, ça, tous ceux que j'ai vus sont toujours super bien accueillis. Tu arrives là, les producteurs, ils ont appris bien des mots d'espagnol. Il y a tout le temps des beaux climats, là, c'est sûr et certain. Fait que, oui, il manquerait pas grand-chose.
Mais qu'est-ce qui manquerait?
C'est une volonté
politique. J'enlève là, les permis de travail ou de citoyenneté permanente.
Il y a une volonté politique... Puis, elle n'est pas criée sur les toits, mais il y a une certaine crainte aussi, puis elle est comprenable. Tu sais, demain matin, ton ouvrier agricole qui gagne le salaire que tu es capable d'y donner en fonction, comme on disait tantôt, du salaire que toi-même que tu te donnes, devient permanent. Il peut donc appliquer chez Résolu, il peut appliquer à la municipalité, il peut appliquer partout.
Ouais.
Parfait, tu sais, s'il améliore son sort, sauf que là, on ramène à la case départ.
Ça ne réglera pas le problème.
C'est ça que la personne... Puis, ce que les producteurs agricoles veulent pas non plus, c'est de recommencer tout le temps.
À toutes les fois.
C'est quand ils ont quelqu'un d'habitué, parce que production agricole, on s'entend qu'ils travaillent pas dans un bâtiment de 20 par 20 puis ils se voient toute la journée. Là. Des fois, ils vont être, il faut qu'ils se forcent pour se rencontrer le matin parce qu'ils savent qu'ils ne se reverront pas avant 2 jours. Fait que ça prend du monde quand même qui a une certaine autonomie.
Mais tu sais, dans cette logique-là, là, quand ils repartent pendant 6 mois dans leur pays, qu'est-ce qui nous garantissent qu'ils vont revenir, qu'ils vont ramener cette expertise-là? Non, mais tu sais, on ne sait pas ce qui peut passer.
Non,
des fois, la qualité de vie là-bas est plus possible que, je sais pas, les maladies, une mort, la violence, je sais pas, tu sais.
C'est un pari, tu sais, les producteurs souhaitent, puis ils aiment bien quand ils peuvent
avoir. Il me semble que le pari des avoir ici tout le temps est plus intéressant.
Je suis convaincu aussi, puis comme tu disais tantôt, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent la relève, ben tu sais, ça serait peut-être des inclure ou des... Il y a quelque chose à faire, ça, c'est sûr et certain, puis je pense que c'est les enjeux, les objectifs sont trop les mêmes pour pas qu'il y ait un raccordement quelque part, là. Ça, je suis convaincu aussi.
Ouais. Autre enjeu que je trouve important de discuter en lien avec l'agriculture, c'est l'environnement. La question environnementale. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, agriculture, dehors, fruits, légumes, viande...
Pollution.
Non, bien au contraire. Moi, je trouve que c'est nature, j'ai l'impression. Mais là, ce qu'on entend de plus en plus, c'est bon, faut manger moins de viande parce que c'est un désastre écologique. C'est vrai, là, ce qu'on voit au Brésil, entre autres, là, aux États-Unis, tu sais, des méga fermes de 300-400 000 têtes. Après ça, ben les pesticides, la monoculture. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques environnementales qui sont liées aussi à l'agriculture, qui est un milieu déjà pas évident. J'imagine pour un agriculteur, il peut pas se revirer de bord aux 6 mois pour changer ses pratiques, là.
Non, puis tu sais, les
pratiques... Comment ils vivent ça, eux autres, tu sais?
C'est sûr que, comme je le disais, il y a eu, là, peut-être fin des années 90, début 2000, il y a eu un gros mouvement, là, on pense, là, entre autres, là, les fameuses fosses à fumier qu'il a fallu que tous les producteurs, puis ainsi de suite. Fait qu'à partir de là, puis là, ça a devenu beaucoup de normes environnementales avec les modifications de la loi sur la qualité de l'environnement, sur le règlement sur l'exploitation agricole, qui ont amené beaucoup de contraintes aux producteurs agricoles. Puis à quelque part, on était là.
Vous étiez prêts.
Non, mais je veux dire, en tant que société, il faut évoluer aussi.
Ben oui.
Fait que tu sais, c'est pas parce qu'on faisait... même si on disait tantôt que l'agriculture, c'est la base, il faut quand même évoluer avec la société puis de travailler pour l'environnement, ça, c'est sûr et certain. Là, ce que j'ai un peu plus de misère dans les débats, comme tu nous disais, c'est que, oui, la consommation s'est mondialisée, mais la façon de voir l'agriculture aussi, ouais. On n'est pas tous à
non, on est loin de la réalité de ce qui se passe au Brésil.
On est loin de la productivité qu'on peut avoir, ouais. Même dans le sud de la province. Là, on est loin de là. Puis malheureusement, les normes ou les règlements, c'est toujours du mur à mur. On a un de ces défauts-là au Québec. On rentre dans le tordeur au même titre, malgré... Tu sais, puis on pense à pesticides, herbicides, engrais. Au prix que c'est rendu aujourd'hui, il n'y a pas un producteur qui a avantage d'en gaspiller.
Ouais.
Fait que, tu sais, de penser qu'on en met beaucoup trop puis qu'on en tire partout, c'est pas vrai. Puis encore hier, j'écoutais Nutrinor qui se lance dans la télédétection avec le GPS pour assurer que même si ton champ n'est pas carré, que tu puisses épandre la bonne quantité sans dépasser. Tu sais, on a énormément évolué par rapport à ça. Là. Reste les débats, puis ça, c'est un débat, là, d'après moi, là, on est encore jeune, là, mais je pense qu'on ne verra pas la fin non plus, là, entre la fameuse agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique. Puis là, ce qu'on entend souvent parler, c'est l'agriculture durable, qui est un peu entre les deux. Ouais. Moi, j'aime un peu cette avenue-là, parce que c'est pas donné à tous. Tu sais, il y a autant de défenseurs du biologique qu'il y en a du conventionnel. Il y a autant d'avantages d'un qu'il y a d'avantages de l'autre. Où est-ce qu'on se trouve là-dedans? Je pense qu'il y a un certain juste milieu à y avoir. Puis peut-être que de voir des pratiques d'agriculture durable qui sont en place depuis quand même plusieurs années là, dans le monde agricole. Tu sais, de penser que l'agriculture de notre secteur est une des pires polluantes, là, on n'est pas là.
Ah non,
on n'est pas là, pantoute, là. Aucunement.
Oui, on est loin de ça. Mais il y a aussi tous les mouvements, tu sais, le véganisme. Mmh. Là, on parle des œufs, du lait, de la viande. La viande, tu peux comprendre là, en lien avec la déforestation. Là, ça, c'est clair. Je pense qu'on est loin de ça. Mais en même temps, si on déforeste pour faire de la monoculture de soya, pour faire du tofu, on n'est pas plus avancé. on déplace juste la problématique. Oui. Là. Est-ce que la solution, ça serait pas justement de ramener à quelque chose de plus local, tu sais, de nous permettre de nous diversifier de plus local, puis de... Mais là, en même temps, on est d'une planète mondialisée, là, tout est transnational, là, je veux dire, là, oui. Nos bleuets, ils compétitionnent avec les bleuets du Chili, puis de la Chine, puis...
Oui, mais tu sais, on aurait vraiment avantage à reprendre, en tant que consommateur, possession de notre agriculture, de ce qui est produit, puis de ce qu'on consomme, ça, c'est sûr et certain.
Mais en même temps... on veut faire ça, là. Les patates de Péribonka, là, ils montent quand même à Montréal avant de revenir dans mon épicerie. Là.
Il y a souvent...
Non,
a
mais tu sais, comment on fait, tu sais?
Non, c'est un défi, puis c'est pas demain matin. Puis tu sais, l'achat local, les circuits courts, c'est des choses qu'on entend parler depuis plusieurs années. Tout le monde est d'accord. J'ai jamais vu personne me dire non, moi j'aime bien mieux acheter mes patates qui sont passées par Montréal. Avant... Tout le monde est d'accord. OK, on commence par quoi, puis on fait quoi, puis on s'en va où?
Oui, c'est ça. C'est ma question.
Je t'allais poser avant, c'est toi qui réponds. Mais, tu sais, c'est un sérieux défi. Puis, à la base, malheureusement, tu as le consommateur qui, lui, veut payer le moins cher possible.
Bien, dans l'état du monde actuel...
Je suis là, moi aussi. Ben oui, je vais prendre mon épicerie, j'aime bien mieux... Quand je vois deux produits, il faut que j'aille un bon argument pour prendre celui qui est plus cher.
Ouais.
Il y a une certaine éducation, c'est sûr. Si c'est quand la personne va avoir compris, OK, celui-là vient du Chili, celui-là vient de Mistassini, c'est pas nécessairement le même produit. OK, mais là, il faut qu'il comprenne. Puis il faut qu'il soit capable. On ne sera pas de cachette, il faut qu'il soit capable aussi. Là.
Puis comment un produit qui arrive de l'autre bout du monde peut être moins cher que le produit qui vient d'ici? Moi, là, ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
Je le dis souvent, puis c'est la phrase qu'on se dit le plus souvent quand on magasine, ma conjointe et moi, je me dis, il doit sûrement avoir du monde qui gagne pas cher à quelque part.
Ben non, c'est ça. C'est qu'on encourage aussi l'exploitation humaine, on encourage...
Oui, puis tu sais, on parlait de normes environnementales. C'est sûr que tu peux pas avoir des normes environnementales strictes quand tu produis, comme tu dis, des produits qui arrivent, qui sont partis de l'Amérique du Sud, qui sont rendus sur une tablette d'une épicerie à Dolbeau-Mistassini, puis qui sont deux fois moins chers que lui qui est à Georgeville à côté. Impossible.
Mais non, c'est
impossible,
ça.
Impossible.
Fait que c'est pas une concurrence déloyale.
Ben. c'est des sérieuses questions, ça, c'est sûr et certain. C'est pas nouveau. Selon moi, ça va passer par l'éducation parce que On n'aura jamais, nous autres, des employés qui vont gagner 30 cents par jour à aller cueillir des pommes de terre.
Ouais.
Fait que, tu sais, puis c'est un cercle vicieux. Mais le jour où nos entreprises, justement, on ne sera plus capable de les racheter, puis ils vont être achetés par des gros, qui, là, après ça, eux autres vont l'exploiter de la façon, là, on va se poser des questions. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là.
Toi, là, tu deviens, je sais pas, là, tu deviens premier ministre du Canada, là. C'est quoi la solution là, par rapport à ça? Là,
je commençais par me déguiser.
En agriculteur.
C'est une question...
Non, mais tu sais, je me dis, tu sais, toi, tu es sur le terrain, tu parles à beaucoup d'agriculteurs, puis je le sais que tu dois entendre des solutions, puis tu sais, face à ça, à un moment donné, si on se dit, je sais pas moi, le Canada ou le Québec ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, on veut de l'agriculture saine, fait qu'on bloque tout ce qui est... Mais tu sais, qu'il faut encore prouver que c'est fait n'importe comment ailleurs. Ça devient compliqué, là.
Quand on tombe dans la mécanique des échanges intentionnels, on se rappelle juste le fameux conflit du bois d'œuvre.
Ben oui.
Puis, tu sais, OK, tu me prends ça, OK, moi, je vais t'enlever ça, puis ça, puis ça, puis là, ça finit plus. Je pense, puis ça va ressembler un peu au bois d'œuvre aussi, de ce qu'on s'est fait reprocher. L'agriculture, on s'entend, c'est la base de la société, c'est la base d'une population. Je pense que c'est à la société, à la population, de faire sa part aussi. Oui, on investit beaucoup d'argent, mais je pense qu'il va falloir, pour arriver à ta question, il va falloir, si les consommateurs ne sont pas prêts à le faire d'eux-mêmes, mais l'État va devoir aller chercher l'argent qu'ils ne mettent pas dans l'achat local, dans leur poche.
Oui, parce que là, il faut compenser, il faut... Non, mais ça amène... Moi, je vais te donner un exemple. Moi, je fais l'effort d'aller toujours faire mon épicerie au village. Clairement, ça me coûte plus cher que si j'allais au Maxi.
C'est clair.
Mais j'y tiens à mon épicerie, j'y tiens. Fait qu'il faut que j'encourage. J' ai les moyens de le faire. Bon, je les ai de moins en moins avec l'inflation en ce moment. Mais à un moment donné, tu sais, ça prend des gestes aussi, là. Poser des gestes. Comment convaincre les gens que c'est plus rentable collectivement de payer une pièce de plus pour trois cocombes, que je sais pas, tu sais, y a-tu des solutions? En parlez-vous de ça?
Oui, c'est sûr. Oui, c'est, ça fait partie de beaucoup de discussions, de beaucoup d'intervenants, de beaucoup d'organisations. L'UPA a été aussi fait beaucoup de démarches là, d'achat local là, dans les dernières années, avec la vague là, qu'on a vue suite à la pandémie, c'est sûr. Mm-hmm. Oui, ça va passer par l'éducation, c'est clair, de comprendre. T'sais, quand on comprend, si on voit juste un prix, c'est facile, là. Des carottes, c'est la même affaire. Tu regardes pas, puis c'est pas évident de lire l'emballage d'un sac de carottes. Là. Fait que tu prends le moins cher, puis ça finit là, tu te poses pas de questions. Là. Fait que quand tu commences à comprendre, bien, la pièce de plus, bien, elle reste chez vous. Elle va peut-être permettre à un enseignant de pas s'en aller à Québec ou à Montréal parce qu'il fera pas d'argent ici. Fait que peut-être que ton enfant va avoir un meilleur enseignant ou peut-être que ton médecin va rester, fait que ton médecin va être meilleur ou ton garagiste va avoir un bon garagiste fiable parce que lui va vouloir rester parce qu'il va faire de la business, parce qu'il va avoir un peu plus d'argent dans le milieu.
Si tout le monde fait ça, ben veut pas les prix vont diminuer,
clairement.
Tout le monde va s'enrichir collectivement, va avoir des bons pouvoirs d'achat, tu sais. Je voyais une étude américaine, là, c'était pour les États-Unis, là, mais j'imagine qu'on ça devrait. Il disait que 1 $ investi dans une multinationale, ça rapportait dans une collectivité à peu près 1,25 $, mais que 1 $ investi dans le local, ça rapportait à peu près 2,50 $.
J'aurais pas de misère à le croire.
C'est quand même gros changement, là.
Oui. Énormément. Mais c'est ça. C'est le comprendre est une chose.
Mm-hmm.
L'accepter, puis de le mettre en pratique. Parce que, tu sais, on parle d'inflation, puis on parle de la situation économique et pas rose. C'est où, Mané, tu vas avoir le point tournant de te dire, OK, ben là, moi, je suis plus capable. Je retourne à acheter mes carottes du Chili, puis mes framboises.
Puis j'en veux pas aux gens qui vont chez Maxi parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, là. Mais essaye de réfléchir.
Non, puis tu sais, pensons aux familles, tu sais. Une personne seule, c'est une chose, mais une famille avec 2, 3, 4 enfants...
Avec
tout ce qu'il y a aux alentours à payer, tout augmente, tout, on le voit là, c'est tout qui augmente. Là. Fait que quand tu peux économiser, ben t'as pas le choix des fois, t'as pas le choix.
Allez, je t'arrête là-dessus, on prend une petite pause,
excellent.
On prend une petite pause, je l'ai dit, là, mais on revient dans quelques minutes, là. Lâchez-nous pas, on revient.
Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque? Vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous demandez hey, mais comment ils font pour aimer ça? Ben, Venez avec nous, venez dans notre Coolbox. On va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société. Et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux.
Bonjour, ici Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC, où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Marrière-Chef de Ville et de l'administration municipale. Merci et à bientôt.
De la pause, j'espère que vous avez bien pris un petit temps pour vous, mais là on continue, hein? On parle d'agriculture aujourd'hui, du monde agricole, c'est intéressant. Toi François, t'es conseiller en développement agricole, c'est quoi qu'on te demande le plus? Comment tu peux aider, comment la MRC ou le politique aide ou peut aider les agriculteurs? Des mesures, y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en branle? Mais tu sais, au niveau local, là, qui ne viendrait pas, mettons, de Québec, Ottawa ou quoi que ce soit?
C'est une décision qui a été prise. C'est un poste qui a été créé là, il y a 3 ans. Ça n'existait pas avant la MRC. Fait que juste la création, puis je ne parle pas de moi, mais juste la création d'un poste en développement agricole a tellement été saluée puis chaleureusement bien reçue du monde agricole. Juste de dire au monde agricole, OK, gars, on reconnaît votre place dans le secteur. On va maintenant mettre des efforts pour faire les liens, pour vous comprendre, puis pour avancer par rapport à ça.
Oui. Puis, tant mieux qu'on prenne ça au sérieux. Puis, est-ce que ça a été dur au début? Est-ce que les agriculteurs allaient te voir ou c'est toi qui étais obligé de mener de sortir puis de décider d'aller voir le monde? C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qui se passe? Les problématiques? Comment on peut vous aider? Ou comment ça se passe?
Ça s'est quand même super bien passé. Puis, j'aime souvent faire un peu la blague, mais c'est vrai. Mais quand je me présente actuellement, ma première présentation, c'est du bon, mais moi, je suis conjoint d'agricultrice. Ouais. Fait que, tu sais, je baignais dans le milieu quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Je connaissais beaucoup de gens, fait que ça a quand même été assez facile là, de point de vue d'implication. Mais oui, il y a beaucoup de choses là, qu'il faut défricher aussi, là, aller chercher et aller leur faire comprendre. On a différents programmes. On parlait de relève agricole tout à l'heure. On a souscrit à une initiative provinciale qui s'appelle l'Artère.
OK.
En gros mots, en quelques mots, là, comme un genre de service, un Tinder. De la relève agricole.
OK. On va se matcher.
Oui, on sait exactement ça. On parle de maillage, où est-ce qu'on va chercher des aspirants qui, eux, voudraient s'établir dans une entreprise agricole. On va chercher les cédants qui, eux, cherchent une relève agricole. L'objectif, c'est pas une agence de vente. C'est vraiment de créer un maillage pour rassurer que ça poursuive, puis que les opérations poursuivent, que le cédant trouve son compte, puis que l'aspirant aussi.
Okay.
Ça a été une des avenues qui a été utilisée. On a la stratégie agri-relève dans Marrière-Chapdelaine, où ce qu'on a assis autour de la même table tous les financiers qui peuvent financer là, le démarrage d'entreprise ou la relève d'entreprise agricole. Ça facilite un peu le travail là, des jeunes. Là. C'est ensemble d'affaires là, pour un jeune qui sort d'école ou un jeune début vingtaine. C'est pas tout le temps évident. Là. J'appelle qui, je vais où, je fais quoi. Fait que la stratégie là, veut un peu faciliter ça. Là.
Okay. Puis, tu travailles, j'imagine, de concert beaucoup avec l'Union des producteurs agricoles.
Oui.
Ça se passe bien?
Oui.
Parce que, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu quand même des critiques, parce qu'il reste quand même un monopole syndical. Là. Fait qu'il y avait eu des critiques, entre autres, Roméo Bouchard à l'époque.
Oui, dans le l'Union paysanne.
Oui, etc. Est-ce que ça a amené des changements à l'UPA? Est-ce que ça se passe bien? Je veux dire, ils sont...
Localement, c'est sûr que je travaille sur une base régionale locale.
Oui.
Puis on est chanceux, on a le président régional qui est dans notre MRC. Fait qu'on a quand même des liens privilégiés. Oui, ça se passe très bien à ce niveau-là. Puis ils ont quand même évolué. Là.
Ben,
j'assistais aussi là, à l'Union paysanne et ainsi de suite. Puis tu sais... Oui, l'UPA a quand même conservé sa position, mais a quand même évolué aussi par rapport à ça.
Ben, je pense que des fois, quand quelqu'un pousse un peu, ça te permet de réaliser.
Tu le dis pas, mais après ça,
Et vrai, quand on est trop assis sur notre siège, on réalise pas que notre paradigme, il faut qu'il change.
C'est, encore une fois, là, on en revient tout le temps à la fameuse pandémie. Puis ça aussi, ça a fait réaliser des choses quand on parle tout de l'achat local, des petites entreprises agricoles. On parle beaucoup de petites entreprises de maraîchers. Mais tu sais, l'UPA est de plus en plus conscient puis de plus en plus présent. Puis
ça s'est développé beaucoup, ça, ici, les petits fruits. Puis à partir du Bleuet, mais là, on voit Camerise, on voit, bon, on parlait de canneberge tantôt, Arbousier, bon, il y en a plein, là. Puis on commence aussi à transformer davantage, où ça a toujours été là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de petites boutiques qui vont transformer, qui vont créer
des produits. On en voit de plus en plus. C'est sûr qu'on a énormément, puis on en parlait là, récemment encore à la MRC, on veut développer de plus en plus l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire, parce que tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qu'on fait pour consommer? C'est sûr que si on est capable d'aller acheter le produit directement chez le producteur parce qu'il met en vente chez eux, ça, c'est simple, puis ça se fait quand même bien.
Mais il y a peu de producteurs qui le font, parce que j'imagine que ça doit être complexe aussi. Ça prend tout le temps quelqu'un au kiosque, tu as des produits,
On voit de plus en plus là, des initiatives de kiosques libre-service. C'est ça, ça fait les gens en dehors de la région. Tu sais, nous autres, on ne barre pas nos portes de véhicules. Les autres, quand ils voient un kiosque libre-service où ce que le monde paye sans que personne ne demande rien, ça frappe l'imaginaire. Puis on commence à en avoir de plus en plus, puis on est quand même chanceux par rapport à comment je dirais ça, au niveau de sécurité de notre population, peut-être. Là. Fait que c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Mais oui, ça demande des contraintes et des enjeux. Tu sais, la production agroalimentaire, moi, dans ma tête à moi, c'est une autre facette. Là, oui, produire, c'est une chose. Le transformer, c'en est une autre. Puis le distribuer, c'en est une autre. Là.
Mais il n'y aura pas moyen de justement, parler de maillage tantôt, de mailler ça, tu sais. Moi, je sais que, par exemple, la pandémie, avant Fromagerie Médard à Saint-Gédéon, il y avait un petit restaurant. Bon, la pandémie a fait fermer le restaurant, puis on transformait ça en espèce d'épicerie fine. Puis là, je vois là, je retrouve les produits de la poissonnerie de Dolbeau-Mistassini, l'agneau de l'Orée des Champs, bon, les produits de Médard, mais pas juste de Médard, d'un peu partout. Tu sais, ce genre de circuit-là, là, est-ce que ça pourrait être une avenue intéressante pour l'ensemble de nos agriculteurs?
Oui, c'est sûr, puis ça a toujours été. Hein. Quand on parle de coopérative, on a souvent en tête le mot agricole parce que la plupart des coopératives au Québec sont nées du domaine agricole. Fait que, oui, la coopération, la solidarité a toujours fait partie du modèle agricole, ça c'est sûr et certain. On a un exemple ici, là, Délices du lac Saint-Jean, là. C'est un peu la même chose que Médard. Là. On retrouve des produits là, c'est phénoménal. Là. Puis oui, on aurait une certaine...
Parce qu'on le voit des microbrasseries, on dirait que chaque microbrasserie organise un festival de la bière puis qui invite toutes les autres microbrasseries de la région, mais je trouve que ça fait une belle collectivité.
Puis en tant que consommateur, on est gagnant.
Oui, absolument. Puis je pense que même entre eux, là, ils goûtent les bières des autres puis ça leur donne des idées puis on peut être fiers des autres aussi.
Oui, puis ça crée un certain élan de motivation puis de solidarité, là, de pouvoir retrouver des gens qui ont les mêmes contraintes que toi, les mêmes obligations. Mais oui, on a un défi dans la transformation agroalimentaire. Puis quand on parle de circuit court, d'achat local, ça va passer par là, c'est indéniable, là, ça c'est sûr et certain. Puis les regroupements, là, moi aussi je suis d'accord avec toi que c'est la planche de salut pour la plupart.
Oui, parce que ça nous donne une force en fait collective. C'est des produits des fois qui sont un peu dispendieux. Mais quand ils sont ramassés en même place, ça devient intéressant de pouvoir...
Je suis convaincu que le jour où les gens vont adopter ces produits-là, puis qu'après ça ils vont dire à leur épicier, « Ah ben non, gars, j'achète plus ta confiture, moi c'est celle-là que je veux. » L'épicier n'est pas fou, il va la rentrer aussi, là. Il va la mettre à vendre. Fait que là, tu vas pouvoir l'acheter en épicerie, ça c'est sûr et certain.
Oui, bien oui, parce qu'on l'a vu qu'il y a une microbrasserie d'ailleurs. Tu sais, au départ, il n'était pas dans les épiceries, puis aujourd'hui,
il n'y a pas une grande surface. Exactement.
Parce qu'ils ont besoin.
Les grosses brasseries sont rendues qui achètent des microbrasseries, ça c'est phénoménal.
Bien oui, ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu.
Fait que tu sais, non, l'exemple est super bon, puis c'est vrai. Là.
Toi, ta conjointe est agricultrice. C'est quoi la vie d'un agriculteur en 2022? Mon grand-père est agriculteur, il a cédé ça au frère de ma mère, qui à un moment donné, il a tout vendu parce que la vie devenait compliquée. Bon, l'agriculture, c'était compliqué. Mais comment ça l'a changé aujourd'hui? Parce que maintenant, dans le temps, c'était la terre tout le temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup de justement de mettre en valeur les produits, de gérer les problèmes climatiques. Comment ça a changé, tu sais, la vie des agriculteurs aujourd'hui?
Ça a grandement évolué. Oui, les façons de faire se sont améliorées, sauf que les superficies ont grandi. Oui, les tracteurs sont plus gros que dans les années 50, mais ils en ont quatre fois plus à faire.
Ben oui, c'est ça.
Au point de vue, c'est quand même relatif. La charge de travail est encore là, c'est sûr et certain. Tu sais, je parlais au début, on parlait de vocation. Je crois encore là, qu'être agriculteur, c'est une certaine vocation. La plupart du temps, c'est du 7-7.
Oui. Oui, et puis ça commence aux petites heures, puis ça finit aux petites heures.
Ben c'est, oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est le, tous ceux qui travaillent avec des animaux, c'est du vivant. Mm-hmm. C'est des contraintes, c'est des maladies, c'est des fait que c'est beaucoup de précautions, c'est beaucoup de soins, c'est beaucoup d'attention. Moi, quand j'ai réussi à prendre 4 jours de congé, c'est quelque chose. Puis encore là, ma blonde, je le vois que dans sa tête, elle reste à la bergerie.
Ouais,
fait que c'est dur, puis on les comprend. C'est leur entreprise, ils sont là-dedans à temps plein. De quitter, c'est pas évident. Des fois, il faut le faire. D'ailleurs, il y a une super belle initiative qui a été mise en place justement par l'UPA, qui est la coopérative Le Relais.
Okay.
C'est une coopérative de remplacement de main-d'œuvre. Si demain matin, à tort, on pense que c'est pour des raisons de santé, mais c'est pas juste pour des raisons de santé. Comme là, il y a une famille de Saint-Félicien au début janvier, ils partent toute la famille dans le sud. Puis là, eux autres, c'est vraiment, c'est déjà cédulé. Les agents de la coopérative Le Relais, c'est eux qui vont venir prendre contrôle de la ferme pendant ce temps-là. Fait que c'était quelqu'un qui était expérimenté. La personne, je pense, ont rendu 8 agents présentement à travailler pour cette coopérative-là. Ils savent comment ça marche une ferme, ils savent comment tirer des vaches, ils savent.
C'est ça.
Fait que tu pars pas inquiet, là. Il y a quelqu'un qui s'en occupe.
Okay.
Et toi, tu payes le prix que ça coûte pour te remplacer, mais au moins, tu as quelqu'un.
Ouais.
T'as une maladie ou t'as ta conjointe, il faut que tu ailles l'accompagner ou quoi que ce soit.
Ouais, ouais.
Tu fais quoi, là? Tu peux pas laisser tout ça, là. C'est du vivant, là. Fait que là, cette coopérative-là va permettre. Puis tous ceux qui l'utilisent, là.
Ça, c'est juste dans la région ici ou
oui.
Ah, oui. Wow.
Déjà, là, je parlais justement récemment, j'étais avec le coordonnateur, puis là, il est sollicité un peu partout pour aller expliquer le modèle là, dans d'autres régions. Puis à la base, c'est quand même simple.
Mm-hmm.
Puis ça fonctionne super bien. Fait que ça va permettre, là.
Puis on a vu aussi dans les dernières années, on a parlé enfin, là, mais tu sais, de la détresse psychologique, ouais. La dépression, les suicides chez les agriculteurs, etc. Puis ça peut être une belle manière aussi de reprendre une bouffée d'air.
Puis, avec ça, il est venu aussi, là, les travailleurs, on dit souvent travailleuses de rang, parce que c'est souvent là, des femmes.
Oui, les psychologues de rang.
Oui, tu sais, ouais. Vraiment, eux, ils ne sont pas assis dans un bureau à attendre, ils prennent les rendez-vous, puis ils vont rencontrer les producteurs chez.
Est-ce que tu vois, ça fait combien de temps, là?
Ici, elle est déployée depuis 3 ans, à peu près 3 ou 4 ans.
Puis est-ce que tu vois que ça fait un changement réel?
C'est sûr que juste le fait d'en parler, puis tu sais, le fait qu'on a entendu parler aussi dans les différents de reportages télé, radio, les gens sont plus enclins. Tu sais, avant, ils n'en parlaient pas. Ça allait pas bien, mais ça va aller mieux demain. Puis ça va aller mieux demain, puis tu te restes à ton tracteur. Puis tu sais, une des choses, tantôt tu me parlais, qu'est-ce qui a changé? La proximité entre les agriculteurs est moins là un peu. Tu sais, les entreprises, oui, se sont grossies. La mécanisation a fait que c'est beaucoup plus simple. On a besoin de beaucoup moins de monde. Fait que, tu sais, une personne va faire le travail de combien de personnes qui faisaient là, 30, ouais. 40 ans. Fait que le résultat, c'est que tu passes des grandes journées souvent tout seul. À croiser ta conjointe quand tu te couches le soir ou le matin quand tu pars. Tu vois ton voisin au loin qui fait la même chose que toi assis dans son tracteur.
Ouais.
Perron d'église du dimanche, on n'en parle plus, il n'est plus là, on n'a plus personne, le monde discute plus, le monde n'échange plus. Ça referme un peu, ça c'est sûr que c'est un autre défi. Fait que tu sais, les travailleuses de rang, puis tout le fait de parler de cette fameuse détresse-là, on en parle déjà mieux qu'on en le faisait, mais on a encore à en parler encore plus, là, on va gagner.
Oui, parce que c'est pas facile, tu sais, moi je pense juste aux problèmes climatiques, puis là on va en avoir de plus en plus.
Mm-hmm.
Mais même déjà avant ça, je veux dire, des sécheresses, des inondations, des tornades, il y en a toujours eu, mais là, c'est comme il y en a de plus en plus, on ne plus pas. Ça doit faire peur aussi à sortir aux agriculteurs de dire, bon, c'est qu'il va m'arriver cette année. On dirait qu'il n'y a pas une année qui ne tombe pas de quoi sur le dos des agriculteurs.
On l'a vu cette année, là, au printemps, là, la plupart des producteurs n'ont pas été capables de semer parce qu'il a mouillé pendant. C'est leur gang-pain direct qui va être. Puis là, après ça, là, on les voit dans les médias, puis là, ça parle avec la financière agricole pour l'assurance stabilisation, puis là, c'est. On parlait des préjugés, puis il y en a peut-être un là. Le monde va dire « Ah, on sait bien, ils sont tous financés. » Mais tu sais, demain matin, là, moi, tu tombes malade une semaine, puis là, je te dis « Bon, mais là, vu que tu as été malade cette semaine, tu n'auras pas de paye pour la prochaine année. »
Non, c'est ça.
Tu ne seras pas de bonne.
Écoute, change de job, là.
Tu vas crier, tu vas dire « Ben là, j'ai besoin d'aide. »
Ouais.
Fait que tu sais, le producteur qui se fait, qui réalise « OK, gars, là, tu ne réussiras pas à semer à temps parce que tu ne réussiras pas à récolter avant l'hiver. » Fait que oublie ça, tes revenus cette année. Puis là, lui, ses semences sont achetées, ses engrais sont achetés, tout est là. Là, tu viens de dire, les milliers de dollars que tu viens d'investir, bien là, c'est une perte pour cette année. Ouf!
Ouais. Oui, donc c'est dramatique.
Tu l'as dit, puis tu sais, là, on parle des verglas, puis les redoux durant l'hiver, puis des
le bleuet quand ça
gèle. Des couvertures de neige qu'on voit plus comme on voyait avant.
Oui, non, puis ça va juste empirer. Mais il peut y avoir des choses positives là-dedans, dans le sens que peut-être que le type d'arbre, le type de semences qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir changer aussi l'agriculture. Va évoluer avec les réchauffements climatiques.
Quand on parle, oui, tu sais, comme on était dans des rencontres justement à l'AgriClimat, qui est une initiative super intéressante par rapport à ça pour la prévision des situations. Puis tu sais, on prévoit une amélioration des jours thermiques au lac Saint-Jean. T'sais, on s'entend qu'on a un climat nordique. Fait qu'on peut, là, les producteurs vous disent, on va pouvoir faire du soya, on va pouvoir faire du maïs comme il se faisait dans le sud. Oui, mais tu sais, il va arriver des insectes, il va arriver des parasites, il va arriver des maladies qui ont dans le sud qu'on n'a pas aussi. Là. Fait que tu sais,
ça devrait.
Ça se balance aussi, là. Fait que, tu sais, c'est apprendre à.
Mais ça va peut-être donner, par exemple, des périodes de semences ou de plus de récoltes parce qu'on va être capable d'en semencer des fois deux fois, des fois.
Sauf que, tu sais, les hivers, dans le sud du Québec, là, des couches de neige d'un pied, là, ils ne voient plus ça depuis plusieurs années. Là.
Ça, c'est une problématique?
Oui, parce que là, tantôt, tu vas avoir tes champs qui vont être exposés. Une bleuetière qui n'est pas couverte de neige durant l'hiver, ça, c'est
c'est la mort.
La plus grande crainte des producteurs agricoles. Les autres, ils ont hâte que la neige vienne toute cacher puis qu'elle reste là pour tout isoler. Fait que c'est... Puis la transition, ça va être longue. C'est pas comme si je te dis demain matin, hein, à partir de demain matin, on gagne 30 jours de.
Non, ouais, c'est ça.
Ça va se faire tranquillement pas vite, au détriment d'autres choses. On va en perdre d'un bord, on va en gagner de l'autre. Fait que demain matin, moi, personnellement, tu me dirais. On reste comme ça, là, ou on améliore la chaleur. Je veux dire, on reste comme ça, c'est sûr et certain.
Ouais.
On est capable de faire de l'agriculture dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Plus on va les changer de façon surprenante. T'sais. On parlait de tornades. Oui, c'est vrai, on n'en voyait pas. Là. Des fois, on en voit du grésil, on voit du verglas durant l'hiver, des pluies durant l'hiver. Moi, jeune, j'ai jamais eu de pluie durant l'hiver. Là, maintenant, c'est des choses qui ont quand même commune, des éclairs durant l'hiver. On n'a jamais vu ça. Fait que, tu sais, c'est des situations exceptionnelles qui commencent à l'être de moins en moins. Fait que ça commence à être des sérieux casse-tête là, pour quand on travaille avec la nature, ça c'est sûr.
Ouais, ça devient compliqué, hein, en fait, pour de tout gérer, de tout voir, de tout prévoir. On dirait que quand tu. Là, ça, après ça, ça va être une maladie pour tel type de légumes
ou des insectes ou.
Est-ce qu'il y a un avenir pour revoir des plus petits producteurs qui vont dire « Bon, moi, je me ferais juste un champ de choux puis je mettrais ça, je me ferais des paniers de choux que je vendrais partout. » Tu sais, je veux pas exporter, je veux que ça arrache chez nous. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Est-ce qu'on pourrait faire ça ou on n'est pas là, là? L'agriculture est rendue trop grosse, trop intégrée dans le système économique.
Moi, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Puis on en parle, tu sais... Une révolution, ça se fait pas. Puis, on en parle, ces fameuses petites entreprises-là, puis on parlait d'Union paysanne tout à l'heure. Ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'on entend parler? Fait que, tu sais, puis ça a quand même évolué, ça a quand même cheminé. Là. On en voit de plus en plus des petites entreprises agricoles nettes, on en voit de plus en plus des gens, appelons ça un sideline plus, là, où ce que oui, tu as un emploi parce que tu n'as pas le choix, mais tu as quand même une entreprise agricole dynamique à petite échelle, à l'échelle plus humaine. Moi, je suis convaincu qu'on s'en va vers là tranquillement, pas vite, parce que, comme on disait tantôt, si on veut parler d'autonomie alimentaire, si on veut parler d'achat local et de circuit court, on n'aura pas le choix. Ça va prendre plus d'entreprises, plus de diversification, puis d'entreprises qui sont prêtes à vendre directement là.
Oui. Je reviens sur l'hiver.
Oui.
Si j'ai une ferme laitière, j'ai une ferme de porc, peu importe, bon, l'hiver, je m'occupe de mes animaux, je ferai mes vaches, etc. Si je fais juste du végétal, je fais quoi de mes hivers? C'est quoi la vie d'un agriculteur, l'hiver? Non, mais ça a l'air niaiseux, là, mais... tu sais, parce que tu disais un sideline, j'imagine que ce sideline-là, les gens travaillent l'hiver, puis l'été, ils vont se faire un champ, ils vont vendre leurs choux, là, mon exemple des choux. Mais pour un agriculteur, tu sais, qui a des grandes surfaces, il va faire quoi de son hiver quand on prend ça à l'inverse, là?
Souvent, oui, les producteurs maraîchers à petite échelle vont souvent avoir un autre emploi durant l'hiver, ça, c'est sûr et certain. Si je pense à des producteurs de grains, mettons, toute la mise en marché, il y en a qui ne se compliqueront pas la vie, ils vont prendre des contrats à l'avance, mais il y en a d'autres, tu sais, il y a une certaine gymnastique à faire aussi avec tout le marché des grains, et ainsi de suite. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont se concentrer là-dessus durant l'hiver, qui vont s'occuper de l'administration de leur entreprise, qui vont s'occuper de la préparation. Tu sais, à partir du mois de mai, on le voit, là, les producteurs, on les perd. On commence à les revoir réapparaître tranquillement. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, c'est la production assez intense. Fait que tous les à côté, ils le mettent de côté, ils le mettent de côté, ils le mettent de côté. Fait que durant l'hiver, ils rattrapent tout ce qui est l'administration, la gestion, puis la préparation de la prochaine année. Un coup qu'ils ont fini leur année, après ça, ils vont commencer la prochaine.
Ouais.
Fait qu'il y a une job là, de gestion dans tout ce qui est production de grains assez...
Moi, puis je suis content d'en parler parce que je voulais en parler plus tôt quand on parlait des préjugés. Mais moi, quand j'étais petit, on avait l'impression, comme tu disais, là bon, lui, il est fils d'agriculteur, il sent la bouse à l'école. Puis là, on a l'impression que c'est... Je sais pas, moi... Mais ces gens-là, là, écoute, ça le prend tout qu'un cerveau pour gérer une entreprise agricole aujourd'hui, là. Tu sais, ça prend... Tu peux pas... Non, mais des fois, on a l'impression que c'est des gens qui sont... c'est de la ruralité, puis ils parlent mal.
Avec un brin de foin,
ben oui, puis là, ils sentent la vache. Puis,
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On verra.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas ça, pantoute. Il y a tellement de gestion à faire.
On est passé, quand on est passé là, à l'après-guerre, là, à toute l'agriculture productiviste, là, on est passé à un autre niveau. Puis oui, les agriculteurs, à la base, c'est rendu tous des entrepreneurs. C'est des chefs d'entreprise, c'est des... Puis de A à Z, là, c'est eux autres qui vont nettoyer l'allée le matin des vaches, puis ce soir, ils vont être dans les livres, puis dans les planifications financières. Là. Fait que, tu sais, oui, ça demande une rigueur assez incroyable, puis une bonne détermination aussi. Il faut avoir le contrôle de bien des facteurs de l'entreprise, ça, c'est sûr et certain.
Est-ce que ça prend des... Je le sais qu'il y a des formations pour devenir agriculteur, mais... Historiquement, ça n'en prenait pas.
Non.
Parce que tu prenais la ferme de ton père et tu avais appris sur le terrain de manière holistique. Tu apprenais ce que tu avais à faire. Aujourd'hui, est-ce que tu es obligé d'avoir une formation si tu es un agriculteur?
Non.
Non?
Il y a... Les aides financières vont être bonifiées, vont être supérieures quand tu vas avoir des formations adéquates. Fait que ça va
que tu démontres que tu as une expertise.
Exact. Ça va forcer puis ça va inciter surtout les jeunes à aller se former là-dedans. Puis aujourd'hui, je te dirais qu'on a compris l'importance de la formation à tous les niveaux.
Ouais.
Fait que, tu sais, les parents, souvent, on entend parler des parents, oui, mon fils va prendre la relève, mais avant, il va aller faire son cours ou avant, il va aller se former. Fait que ça, on l'entend, puis c'est le contraire est rendu rare. Là.
Okay.
Honnêtement, là, les gens vont se former en conséquence. Puis on a quand même on en a à Alma, on en a quand même assez près là,
formations.
Des formations assez crédibles puis assez importantes là, pour bien les former. Là.
Oui, parce que c'est important, comme je disais, c'est rendu tellement de gestion qu'à un moment donné, oui, tu peux te montrer, mais les nouvelles pratiques, c'est important, là.
Ah oui, clairement, parce que c'est des gestionnaires, là. Fait que, tu sais, la formation te permet de tout voir ça, là. Oui, tu sais, tu feras pas juste conduire un tracteur, là.
Mais non, mais c'est même, moi, dans toutes les formations, là, je comprends pas pourquoi qu'à l'école, on n'apprend pas à faire un rapport d'impôt, là, tu sais.
Ça, c'est clair.
Non, mais tu sais, c'est niaiseux, là, puis je pense qu'on voit plein d'affaires intéressantes, mais il y a aussi des affaires pratico-pratiques, là, qu'on aurait besoin peut-être de savoir. Là,
au moins pour les comprendre. Peut-être pas que, tu sais, je ferais pas des rapports d'impôts, je ferais peut-être pas le mien. Mais au moins, je le comprendrais, puis je serais capable de dire à mon comptable, non, gars, moi, je l'aurais pas fait de même.
C'est là trop ce qu'on fait, c'est qu'on paye, puis là, on attend que le monde le fasse pour nous autres. Et c'est un peu ça aussi, tu sais, l'agriculture, j'ai l'impression qu'on la prend tellement pour acquis que, bien, c'est sûr, on va à l'épicerie, il va toujours avoir des brocolis, mais on sait même pas de quoi ça a l'air un plant de brocolis.
Non, on sait pas comment ça pousse une noix
dans les types d'arbres. Pourtant, on pourrait tout faire ça chez nous, là.
Ouais.
Tu sais, aller cueillir. Est-ce qu'il y en a aussi beaucoup qui font de l'auto-cueillette?
On en voit de plus en plus. On en voit là, tu parlais de Camerise tout à l'heure. Là, ça, on en voit beaucoup dans la Camerise, qui est de plus en plus populaire. Dans le bleuet, c'est étrange, mais on en voit un peu, mais avec tout le nombre de bleuetières qu'on devrait...
Oui, puis on a entendu beaucoup, même que dans le bleuet sauvage, là, qu'on en a laissé plein dans le bois parce qu'on n'a plus de cueilleurs ou on manque de...
c'est des choses aussi qu'on voit aussi. Et ça aussi, du côté bleuet, on connaît tout quelqu'un qui a une bleuetière ou on connaît toute une place.
On connaît 10-12 personnes qui ont des bleuetières.
Ou on connaît toute une place où il y a des bleuets. Fait que, tu sais, on n'a peut-être pas besoin non plus d'avoir de structure vraiment d'auto-cueillette, là. Puis c'est sûr aussi qu'il y a toute la question de la sécurité. Il y a la fameuse mouche du bleuet là, qui est arrivée depuis quelques années, là. Fait que ça commence à inquiéter un peu, là, parce qu'on avait une grosse concentration de producteurs biologiques dans le bleuet.
Ouais.
Fait que là, la venue de cette mouche-là pose la question, bien, va-t-il falloir traiter? S'il faut traiter, on perd les accréditations biologiques. Fait que tantôt, il va y avoir des choix à faire par rapport à ça.
Oui, puis si on perd notre accréditation, ou si on décide de la garder, mais là, on compare le trois quarts de notre récolte, on n'est pas plus avancé.
Non.
Là. C'est des choix cornéliens qui ont à faire quasiment toutes les années, les agriculteurs, là, face à une multitude de problématiques. Moi, je connais aucun emploi où tu es autant... t'es dépendant du autant du cours du pétrole comme tout le monde, mais aussi de la température, puis aussi de la qualité de ta terre cette année, puis des vents, puis bon...
Pratiquement tout. Là, je sais, récemment, là, quand il y a eu le problème de train là, en Ontario, est-ce que le propane n'arrivait plus?
Ouais.
Là, on a quoi? Hein, du propane? Pourquoi du propane? Ben oui, il y a des entreprises qui chauffent des silos, il y a des entreprises qui chauffent des porcheries, il y a des entreprises... T'as raison, là, ça touche à beaucoup de choses, puis... Le principal, c'est la nature, lequel on n'a aucun contrôle là-dessus. Là. Ça demande une résilience hors du commun d'un producteur agricole. Tu te lèves le matin, là, puis là, tu viens de voir, là, qui, juste avant tes récoltes, il vient d'avoir un épisode de grêle, puis là, tu vois ton grain est tout couché, fait que tu sais que tu vas avoir une perte. Là, ta voix devant toi, là. Là faut, tu peux pas rien dire, tu peux pas dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire... »
Non, c'est ça.
Il faut que tu fasses ta journée, puis il faut que tu continues.
Ouais, puis
tu
ne
peux pas dire, je prends congé, je vais aller décompresser.
C'est vrai qu'il y a des journées qui doivent être décourageantes. Puis en même temps, comme tu dis, quand c'est une vocation, on est aussi déterminé à ce que...
Oui, parce que tu parles avec des producteurs, oui, ils ont des bouts durs, mais ils sont tout le temps là pareil, puis ils vont être là le lendemain, puis ils sont là. Puis on en parlait d'entrée de jeu, là, la fierté que ces gens-là ont. C'est triste qu'on les reconnaisse pas à leur juste valeur par rapport à ça. Puis c'est vrai parce que c'est des gens tellement fiers, tellement résilients, qui en font tellement dans l'ombre, sans demander, tu sais, on les voit pas à sa place publique demander plus de valorisation ou de... Non, ils le font jour après jour, puis ils le font.
Des fois, moi, je voyais, tu sais, à Saint-Gédéon, c'est très... Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les chalets l'été, puis bon, le rang des îles, puis bon, c'est le fun, mais on reste une communauté agricole. Des fois, j'entends ces gens-là, je suis allé, ouais, ça pue le fumier. Oui. Non, on est avant tout une communauté agricole. On peut-tu respecter au moins ces gens-là? Oui, ça va pas vite en arrière d'un tracteur, mais tu as 3 km à faire, tu vas perdre 37 secondes.
Oui, puis tu vas le foutre, ça sera pas tous les jours.
Ben non, fait que tu sais, je sais pas, je trouve qu'on leur doit beaucoup plus de respect et de compréhension, j'ai l'impression.
Puis... La plupart des agriculteurs se sont installés dans les rangs, justement. T'sais, ils sont allés. Puis là, c'est les gens qui reviennent dans les rangs, achètent des maisons, ils veulent s'installer. Puis là, maintenant, OK, vous dérangez. Ben non, ben, attends un peu, on s'en ira pas plus loin encore. Là. On est installés ici pour pas vous déranger.
Merci, François. C'était vraiment agréable. On a abordé une multitude de sujets, mais je pense qu'ils étaient tous pertinents. Puis mis ensemble, ça nous démontre un peu, en partie, en fait, la complexité d'être agriculteur aujourd'hui. Merci beaucoup de ta participation à l'émission. Merci à vous d'avoir été là, c'est important. Hein? Et puis, j'espère qu'on vous aura appris que vous aurez plus de respect envers les agriculteurs. Je ne dis pas que vous n'aviez pas de respect, mais de prendre en considération tout ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Là-dessus, bonne semaine.